dans le débat du jour ce soir, on va parler des exceptions culturelles.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, ce que l'on appelle les exceptions culturelles, ce sont ces pays, ces villes où la culture eh bien, constitue un attrait touristique. C'est le cas de la France, par exemple. Et d'ailleurs, les chiffres annoncés aujourd'hui par les grands musées parisiens le prouvent. L'an dernier, par exemple, 8,7 millions de personnes se sont pressées au Louvre à Paris. Mais est-ce que ce n'est pas là un trompe-l'œil ? Car la culture souffre. En France, la meilleure illustration, c'est la coupe décidée dans la région Pays de la Loire, dans l'ouest de la France, avec une baisse de plus de 70% du budget culture. Situation que l'on retrouve également à Berlin, vitrine européenne de la culture et dont le budget est amputé de 130 millions d'euros. D'où notre question ce soir, est-ce que les exceptions culturelles sont menacées ? Pourquoi la culture est-elle ainsi visée ? Et à quoi ressembleront la France, l'Allemagne, après les coupes annoncées ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio ce soir, Aurélie Filippetti, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne ministre de la Culture, directrice des affaires culturelles à la ville de Paris. Face à vous, Noé Soulier, bonsoir.
Bonsoir.
Chorégraphe, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers, dans l'ouest de la France, dans les Pays de la Loire. Fabrice Raffin, notre troisième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne, socio-anthropologue. Auteur du livre « Friches industrielles, un monde culturel européen en mutation ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord Aurélie Filippetti, quel est votre sentiment concernant la situation financière de la culture aujourd'hui en France ? Je vais citer l'Association des professionnels de l'administration du spectacle qui évoque, en un mot, un cataclysme. Est-ce que c'est le constat que vous faites ?
Ah oui, absolument. La situation, elle est dramatique pour une partie des compagnies, évidemment en danse, mais aussi par exemple pour les orchestres et pour beaucoup de structures qui, en fait, irriguent tous les territoires. Hein, parce qu'il faut bien se dire que la France est un maillage très très fin de structures institutionnelles issues de la décentralisation culturelle chère à André Malraux, mais aussi de compagnies qui sont comme ça subventionnées par ce que l'on appelle, en termes un peu techniques, des financements croisés. Donc des financements d'État, des financements de régions, des financements de départements et beaucoup de financements de communes. Donc le problème, c'est que quand l'un des financeurs eh bien, se retire, les autres n'ont pas évidemment les moyens de compenser cela. Donc par exemple, nous à Paris, la maire de Paris a décidé de maintenir même d'augmenter l'année dernière le budget de la culture.
Ça fait presque exception par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs
en
France.
Oui, mais c'est important, c'est des choix politiques. Et aujourd'hui, il y a d'autres collectivités qui font des choix de coupes totalement drastiques qui sont en fait injustifiés. Et j'insiste là-dessus, c'est que les budgets de la culture, de toute façon, c'est toujours très très petit à l'échelle des budgets des différentes collectivités dont on parle. C'est toujours vraiment minime. Bon, évidemment, c'est moins de 1% du budget de l'État, mais c'est à peu près pareil, 2% par exemple pour 2 ou 3% pour les communes, etc. Donc c'est toujours infime. En revanche, si on veut faire du populisme, moi ce que j'appelle du populisme culturel ou du trumpisme culturel, eh bien on va cibler les acteurs culturels en disant bah, « vous voyez, tous ces gens, c'est de l'entre-soi, etc. et donc moi, je vais couper les budgets de ces gens-là ». Et en fait, c'est un message idéologique et pas du tout un message économique.
Pourquoi est-ce que ce sont les collectivités locales qui sont particulièrement à la manœuvre sur les baisses budgétaires ? Davantage que l'État. Je vais citer, parce que j'évoquais, et je vais donner évidemment la parole à Noé Soulier pour parler de la situation dans les Pays de la Loire, avec ce budget culturel qui a été adopté en chute de 73%. Bon, ça, c'est l'exemple le plus criant. En Île-de-France, moins 20%. Au niveau des départements aussi, évidemment, 50% des aides en moins en Charente-Maritime, dans les mairies. À Toulouse, 40% de subventions en moins.
Encore une fois, c'est des choix politiques, c'est-à-dire que toutes les collectivités ne le font pas. Et ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent en France, en gros depuis André Malraux, mais même auparavant, mais Malraux ça a été l'exemple puisque c'était le ministre du général de Gaulle, il y avait une sorte de consensus entre la droite et la gauche pour dire que la culture était bénéfique à tout le monde. Alors ça pouvait être pour des raisons un peu différentes, mais enfin globalement, il y avait vraiment un consensus politique pour défendre l'idée de cette fameuse exception culturelle. Et on savait très bien que la culture, c'était à la fois de la citoyenneté, du lien social, de l'éducation bien sûr pour les jeunes, mais aussi de l'attractivité pour les territoires et un dynamisme économique. Moi, quand j'étais ministre, j'avais demandé même une étude sur l'impact économique des secteurs culturels en France, et ça montrait que ça représentait à peu près 3,2% du PIB français.
Et pourquoi tout ça s'est autant remis en cause aujourd'hui ?
Par populisme, parce qu'on est dans une ère de populisme, on est dans une ère de démagogie, et que donc cibler les artistes et tout le tissu culturel, comme si tous les artistes étaient d'afro-gauchistes, des saltimbanques, etc., ça agite des très très vieux fantasmes, un très très vieil imaginaire sur des artistes qui ne serviraient à rien, qui sont des danseuses au sens imagé du terme, qui coûtent de l'argent, mais qui ne rapportent rien, et qu'en gros, dans une période de crise, on peut très bien se passer des artistes. Et en fait, c'est le contraire. C'est justement dans les crises qu'on a le plus besoin des artistes, de la culture, de la diffusion, de l'éducation artistique et culturelle.
Mais ce populisme, il vient des dirigeants, évidemment. La population s'en offusque pas ou peu. Ça vous étonne ? Une fois, on va donner la parole à Noé Souli dans un instant, mais il n'y a pas eu de dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté en Pays de la Loire après cette baisse monumentale du budget culturel.
Mais je pense que les gens, ils sont très affectés parce que quand ils voient, je ne sais pas, que leur bibliothèque ou que, effectivement, leurs enfants qui allaient à l'opéra de Pays de la Loire ou au centre chorégraphique d'Angers, etc., finalement, c'est sur des actions, par exemple, d'éducation artistique que ça va retomber. Parce que dans des structures où on a, par exemple, des personnels, des coûts de personnel, des coûts salariaux, etc., sur quoi les dirigeants des structures vont faire porter les économies, c'est forcément sur toutes ces actions-là, à destination des publics en difficulté, à destination des enfants, à destination des personnes âgées. On fait des choses incroyables. Par exemple, il y a des orchestres qui vont dans des EHPAD pour faire des concerts. Enfin, voilà, c'est ces actions-là qui vont être frappées. Donc, les gens, ils vont en souffrir. Mais de là à aller manifester dans la rue, évidemment, mais je pense néanmoins qu'il faut vraiment résister parce que c'est un premier pas. S'attaquer à la culture, c'est quand même tout un symbole. C'est pas seulement s'attaquer à la culture, c'est s'attaquer à une certaine vision de la société française, de la société européenne. La culture, c'est toujours le dialogue avec l'autre, c'est toujours une ouverture sur ce qui est différent de nous, et c'est l'idée que ce qui est différent de nous a en même temps quelque chose à nous dire, à nous, et peut nous toucher notre sensibilité. Donc c'est cette vision-là, le trumpisme culturel, c'est un repli identitaire, et les politiques culturelles qui sont menées partout, c'est le contraire de ça.
Noé Soulier, directeur donc, du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, signataire d'une pétition dénonçant les coupes budgétaires annoncées justement par la présidente de région. Concrètement, pour vous, Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, ça va se traduire comment cette baisse de plus de 70% du budget de la culture dans la région ?
Pour nous, c'est 100% du budget de la culture qui est coupé. Et pour la plupart des institutions qui sont dans la région, c'est 100%. C'est-à-dire qu'en 2025, le CNDC ne touchera 0 euro de la région. Alors que jusque-là, il touchait une subvention de 125 000 euros. On a été prévenu le 5 décembre. Donc ça veut dire qu'on apprend le 5 décembre qu'on aura 125 000 euros en moins. 123 500 euros au moins pour donc déjà il y a une forme d'irrationalité là. Comment, enfin, je veux dire, c'est personne ne peut s'adapter à ce type de décision à cette vitesse là c'est impossible en fait.
Comment vous allez fonctionner?
On va forcément être un peu en déficit parce qu'on a déjà des engagements les tournées, elles s'organisent des années en amont. On va couper des choses, mais effectivement c'est ce que Aurélie Philippe disait, c'est-à-dire qu'on va devoir couper les personnes les plus vulnérables, en fait, les petites compagnies. On va essayer de le faire le moins possible, mais il y a une impossibilité là. Et oui, je pense que c'est une décision complètement démagogique aussi, assez incompréhensible. Par exemple, le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui fait partie du même parti Horizon que Christelle Morançais, qui a décidé de ses coupes, il soutient la culture à l'échelle de la ville. Je pense qu'il y a aussi quelque chose où parfois, à l'échelle de la ville, les gens, les habitants peuvent vraiment identifier le théâtre de leur ville, la bibliothèque, etc. Mais il y a déjà, à l'échelle de la région, c'est plus difficile de savoir exactement où cet argent y va, etc. Et je pense que c'est vrai aussi que ça joue en fait sur des stéréotypes. Et donc ça vient jouer sur des stéréotypes. Et finalement, pour l'instant, les habitants, ils n'en subissent pas encore les conséquences parce que c'est pour 2025. Et aussi, ces conséquences, elles vont se faire de manière assez insidieuse, parce que en fait c'est sur un certain nombre d'activités où ça va faire qu'il y aura des dates de programmation en moins, ça va dire qu'il y aura une programmation moins ambitieuse, ça veut dire qu'il y aura moins de propositions effectivement auprès des lycées, des collégiens, des écoles, des publics. Donc en fait ça va retirer des droits culturels, tout simplement. Enfin, c'est vrai que pour moi, la culture, c'est un service public, en fait, au même titre que... Donc, si vous coupez dans l'éducation nationale ou dans la santé, ben voilà, ça va avoir des conséquences sur le type de soins que les gens peuvent avoir, ça va avoir des conséquences sur le type d'éducation que les gens peuvent avoir. Si vous coupez dans la culture, ça va avoir des conséquences directes sur le fait qu'en région Pays de la Loire, en tout cas, les gens auront accès à une offre culturelle plus réduite, moins diverse, moins riche, et il y aura aussi beaucoup moins d'actions qui seront faites pour rapprocher de la culture des publics qui en sont pour l'instant éloignés, dans les zones rurales, dans les quartiers en difficulté, etc. Donc voilà, pour moi, c'est extrêmement violent, c'est irrationnel et c'est assez dramatique.
Alors, ouais. Avant de vous donner la parole, Fabrice Raffin, Aurélie Philippetti, c'est intéressant de se passer d'eux, parce que parmi les ceux qui peuvent justifier les coupes budgétaires, il y a souvent cet argument de ben, on peut plus facilement se passer de la culture que de l'éducation, de la défense. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ?
D'abord que, effectivement, c'est complètement absurde parce que, vu l'ampleur du déficit et de la dette en France, je veux dire, la culture n'est même pas la goutte d'eau d'une goutte d'eau là-dedans. Hein. Donc, c'est pas comme ça qu'on va réussir à résoudre le problème de la dette française. Mais en plus, c'est contre-productif. Parce que si on regarde, par exemple, les festivals ou des compagnies, voilà. Mais quand on investit 1 euro dans un festival, en fait, ça rapporte au territoire 2, 3, voire 4 euros. On avait fait l'expérience en 2003, au moment de la grande grève des intermittents à Avignon. Le festival d'Avignon n'avait pas pu se tenir. Ça avait été une perte sèche pour la ville, et pour le département et pour la région, qui avait été absolument dramatique. Et c'est à partir de ce moment-là que, eh bien, on s'est dit, ah oui, la culture, c'est effectivement une dépense, mais enfin, c'est aussi... Ouais. Évidemment, une manière de rendre des territoires attractifs, et y compris d'un point de vue économique, d'avoir des retombées positives. Donc c'est absurde, y compris économiquement. Et puis, si on regarde, je ne sais pas, par exemple, on a vu à l'échelle de la France, mais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec ce spectacle qui montrait justement le savoir-faire artistique de notre pays. Mais ça, c'est la cérémonie d'ouverture des JO. Mais si on peut prendre des festivals dans des zones rurales, je prends souvent l'exemple de Charleville-Mézières, une ville que je connais bien. Il y a un festival de, voilà, dans les Ardennes, un festival de marionnettes, festival international de marionnettes tous les 2 ans, qui attire à Charleville-Mézières 100 à 150 000 personnes, ouais, pour un festival de, vraiment de très très haut niveau, l'un des meilleurs au monde. On peut prendre le festival des arts de la rue à Aurillac, enfin, etc., etc. Le festival de jazz à Marciac. Il y a notre pays est riche de cela. Et si on coupe dans ces budgets, on atteint tout cet écosystème-là qui a été patiemment construit pendant plusieurs décennies, et encore une fois avec un grand consensus droite-gauche et avec une grande partie de la droite, des gens, bon, on parle de Jacques Toubon, mais Michel Guy qui a été un grand ministre de la culture aussi dans les années 70, etc.
Jacques Lang, on cite.
Mais là, je parlais des gens de droite, évidemment, parce que je dis qu'il y avait un consensus. Moi, étant une femme de gauche, alors voilà, je parlais plutôt des gens de droite. Mais ce que je veux dire, c'est que cette politique a été jugée pertinente, et y compris à l'échelle européenne. On a défendu l'exception culturelle pour justement que nos productions culturelles, le cinéma par exemple européen, ne soient pas soumis aux règles du libre-échange comme n'importe quelle marchandise, parce que sinon on savait ce qui allait se passer, c'est-à-dire que le cinéma hollywoodien allait écraser complètement les productions et la diffusion cinématographique européenne. Ça a très très bien marché. Aujourd'hui, enfin, cette l'année qui vient de s'écouler, des films français comme Enfant phare, comme Quelque chose en plus, sans parler du film de Justine Triet, etc., ont fait des rentrées tout à fait exceptionnelles. C'est des succès à la fois publics, populaires et critiques. Et évidemment, c'est aussi de l'activité économique. Donc c'est totalement contre-productif de couper dans les budgets culturels comme ça.
Et on va évoquer dans la deuxième partie du débat les conséquences de ces coupes budgétaires, évidemment, et la culture demain dans ces pays, la France, dans ces villes, Berlin, capitale allemande, 130 millions d'euros de budget en baisse. Fabrice Raffin, pourquoi est-ce qu'il y a autant cette question du retour sur investissement qui est aussi brûlante concernant la culture ? Et je vais citer justement la présidente de la région Pays de la Loire, dont on parle beaucoup ce soir, qui sur X a dit « Quelle est la pérennité d'un système qui, pour exister, est à ce point dépendant de l'argent public ? N'est-ce pas la preuve que notre modèle culturel doit d'urgence se réinventer ?»
Oui, alors, je ne reviendrai pas sur les aspects démagogiques qui ont été soulignés, que je partage de ces décisions assez radicales. Néanmoins, je pense que le milieu culturel institutionnel ne fera pas l'économie d'une réflexion en profondeur sur les principes, quand même. L'exception culturelle française, pour moi, elle a trois niveaux, déjà, qu'on peut préciser, parce qu'on parle toujours de cette exception, mais en quoi elle est exceptionnelle ? Eh bien, au niveau de la dépense publique, tout d'abord. C'est-à-dire que la dépense publique française, c'est la plus élevée en Europe. On peut, mis à part la Suisse, peut-être par habitant, et personne ne connaît le chiffre, en fait, et il est impossible à calculer. Donc, combien d'argent public dépense-t-on en France pour la culture ? On ne sait pas. Ouais. J'ai fait un article...
Il fait petit parler d'une goutte d'eau, mais...
Moi, je vais vous parler de la goutte d'eau. Donc, la goutte d'eau, en fait, j'ai sorti un article récemment sur cette question, et on est plutôt entre 25 et 30 milliards d'euros par an que autour de 10 milliards. Si on additionne les collectivités territoriales et l'État, et les différents échelons, donc j'ai fait le calcul, il est assez simple, bien qu'il soit faux, parce que en plus, dans les régions et tout ça, des services font de la culture qui ne sont pas censés faire de la culture. Le sport, le tourisme, tout ça est mélangé. C'est un imbroglio duquel le statisticien ne peut pas sortir.
Donc la culture n'est pas un parent pauvre des budgets.
À vous de juger. Moi, je vous donne des chiffres. Okay. À vous d'évaluer si vous trouvez ça. C'est pas mon travail. Mais néanmoins, il y a quand même cette première question de l'exception. L'Allemagne est plutôt autour de 9-10 milliards collectivités territoriales plus État additionnés. On aura toujours une bataille de chiffres.
D'accord. Enfin, oui, il y a un petit problème sur les chiffres.
Élément. Le deuxième élément, je pense, de l'exception culturelle française, c'est tout ce qu'on mise sur la culture en France. C'est-à-dire que là, la culture, j'ai écrit « La culture à tout faire » récemment, elle est à la fois là pour éduquer les populations, à la fois pour faire de l'aménagement du territoire, du lien social, de la cohésion. Ouais. Donc, ce qui est très bien, moi, je trouve ça très généreux et je ne remets pas en cause du tout la générosité et l'investissement des professionnels qui sont très compétents. Je partage cet avis. Mais voilà, donc, sur quoi et pour terminer, quand même, ce qui ressort quand même, je renvoie... au texte de Mouchkine ce malaise qui quand même apparaît, ce décalage entre l'offre culturelle, l'offre artistique et les publics. Donc ça, c'est quand même un autre point qui est à souligner et à travailler. S'il y a des choses qui sont très bien, très réussi et tout ça, mais le rapport somme investie, pourquoi faire et pour qui, c'est quand même une équation à travailler, je pense.
Noé Soulier, le secteur culturel ne peut pas faire l'économie, une remise en cause, nous dit Fabrice Raffin, et en écho, et aussi à ce qu'a dit la chorégraphe Ariane Mouchkine. J'ai cité Le Monde récemment, qui a dit « Le monde de la culture serait plus crédible s'il était un minimum réaliste. La France a connu depuis 30 ans une inflation du nombre de spectacles et d'acteurs culturels sans que le public n'ait augmenté en proportion. » Alors, comment se remettre en cause ?
Après, je pense que le monde culturel, il n'arrête pas de se remettre en cause aussi, dans un sens. Enfin, les artistes n'arrêtent pas de critiquer les artistes. D'ailleurs, la preuve, c'est les propos d'Ariane Mouchkine elle-même. Et vous entendrez beaucoup d'artistes se poser ces questions-là, en fait. Et comme doivent se poser ces questions-là les médias, ou je veux dire, tous les champs d'activité, en fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait un tel schisme entre la culture et son public en France. Les salles sont quand même pleines. Je ne sais pas, par exemple, au CNC d'Angers, on est à 97% de remplissage de places, avec des gens qui ne pourraient pas payer le coût réel de la place si ce n'était pas soutenu par de l'argent public.
Et parce que le danger des baisses de subventions, ça veut dire des places qui, au public, seraient vendues plus cher, parce que les institutions auront besoin de vivre. Donc
ça veut dire pas de tarifs étudiants, ça veut dire des places beaucoup plus chères, donc ça veut dire une culture pour les élites. Donc c'est une question de justice
sociale. Donc un accroissement des inégalités.
Oui, ça veut dire une culture qui sera principalement dans les grandes métropoles, à Paris, comme aux États-Unis. Si vous voyez aux États-Unis.
Oui, quand on voit le profil des abonnés des réseaux de la culture, c'est quand même déjà une culture élitiste, je suis désolé.
Non, c'est une culture de classe moyenne, c'est beaucoup de profs.
Par contre, je pense qu'on gagnerait plutôt à l'affirmer et à plutôt que de comment dire, assumer une qualité artistique et un propos artistique fort, plutôt que de toujours aller sur une espèce d'hybridation avec des formes culturelles qui ne vont pas du tout ensemble, parce qu'il existe différents types de culture aussi, il faut le dire. Au niveau artistique, il y a différents types de culture. Mais ça, c'est un impensé aussi. Et il n'y a pas de public éloigné de la culture en France. Il y a des publics qui ont des pratiques culturelles différentes. C'est pas la même chose.
Mais ce qui est certain, c'est que si on coupe les subventions publiques, effectivement, les seuls qui auront ensuite les moyens d'aller par exemple, d'acheter une place d'opéra. Une place d'opéra, si ce n'était pas subventionné, ça coûterait 2 500 € par place. Voilà. Donc, il y a des gens qui auront les moyens de payer ça et qui seront prêts à le payer. Si vous allez à l'ouverture de la Scala en Italie à Milan, les gens sont prêts à payer 5 000 € pour aller à la soirée d'ouverture de la Scala de Milan. Mais on voit qui ça peut être. Donc, en subventionnant la culture, ce que l'on fait, ce n'est pas subventionner des artistes, c'est subventionner des places à bon marché pour rendre accessible à tous, selon l'idée de Malraux, hein, rendre accessible à tous et en particulier aux plus défavorisés, les œuvres de l'esprit.
Mais ces inégalités existent déjà. Aujourd'hui, les subventions culture qui sont délivrées chaque année en France, c'est 139 € pour un habitant de la région parisienne, 15 € ailleurs dans le pays.
Oui, mais ça, c'est aussi un héritage, parce que c'est comme si, on fait comme si à Paris, il n'y avait que des Parisiens qui allaient dans les structures culturelles parisiennes. Si on regarde au Louvre, par exemple, alors il y a beaucoup, maintenant il y a une majorité de personnes qui sont étrangères, hein, qui vont au Louvre, mais enfin voilà, les structures parisiennes et les structures nationales, les grands théâtres nationaux par exemple, ils attirent un public qui va au-delà de Paris. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une concentration, parce que ce sont les communes qui financent beaucoup, à part l'État, la culture. Et aujourd'hui, les métropoles, c'est vrai, les grandes métropoles sont avantagées par rapport aux territoires plus ruraux ou aux zones périurbaines. Mais c'est justement pour ça qu'il est important aussi d'avoir une politique d'État, d'avoir un ministère de la culture qui soit fort. Et là, malheureusement, l'année dernière, il y a aussi eu des coupes budgétaires en milieu d'année dans les subventions du ministère de la Culture. Or, c'est le ministère de la Culture qui peut établir une forme de péréquation pour redonner davantage à des territoires qui ont moins d'argent.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Les exceptions culturelles sont-elles menacées? La question qu'on pose ce soir, alors que le budget de la culture de Berlin, vitrine européenne de la culture, eh bien, va être amputé de 130 millions d'euros. Et alors que les coupes budgétaires se multiplient en France dans les collectivités locales, la situation la plus importante, c'est dans la région Pays de la Loire, où le budget culturel vient d'être adopté et il est en baisse de 73%. Mes trois invités sont Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, directrice des affaires culturelles à la ville de Paris, Noé Soulier, chorégraphe et directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers, signataire d'une pétition qui dénonce les coupes budgétaires en Pays de la Loire, et Fabrice Raffin, maître de conférence en sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne. Fabrice Raffin, j'aimerais qu'on évoque à présent les conséquences de ces situations. Qu'est-ce que cela dit de ces vitrines de la culture que j'évoquais, que sont la France, qu'est Berlin. Si ces coupes se multiplient, à quoi ressembleront ces territoires demain?
Alors, c'est Berlin n'est pas un exemple anodin, puisque j'ai travaillé à Berlin dans les années 90, et déjà, Berlin était en déficit total. C'est-à-dire qu'il y avait, quelques années après la chute du mur, les subventions pour la culture étaient à peu près égales à zéro. Donc Berlin a déjà connu cette situation assez dramatique, mais néanmoins Berlin n'est pas du tout dans une logique et dans un rapport à la subvention tel qu'on peut le trouver en France. C'est-à-dire qu'il existe une culture institutionnelle en France qui dépend vraiment de la subvention publique, mais dans les autres pays, la mixité des financements publics-privés est quand même une règle qui, à part pour les grands équipements, mais pour la plupart des acteurs culturels, c'est une règle nécessaire d'aller chercher du financement dans le privé. Et tout ce qu'on a appelé la culture alternative à Berlin, Berlin capitale de la culture alternative, c'était en fait une économie libérale, hein. C'était un autofinancement, donc c'était de l'autonomie économique qui est devenue en fait indépendant du pouvoir politique. Après, il y a eu des rapprochements, mais tout ce qui était le milieu des squats des années 90 à Berlin, que j'ai analysé de près, c'était une autonomie économique très très libérale où on vendait de la bière pour créer de la...
Ouais. Alors, j'espère... Oui, mais c'est pas ça aujourd'hui. Le modèle économique de la ville de Berlin en matière culturelle, c'est pas du tout ça. Parce qu'ils ont quand même trois opéras.
Ce que vous voulez dire, Fabrice Raffin, c'est que Berlin se remettra... peut se remettre de ces coûts budgétaires qui dépassent 100 millions d'euros. J'ai juste un chiffre, c'est que 80% des touristes qui viennent à Berlin visitent un lieu culturel.
Je pense que pour Berlin, qui n'a pas vraiment de tissu industriel, pour plein de raisons, parce que historiquement, ce n'est pas le cœur économique de l'Allemagne, mais en revanche, c'est le cœur culturel de l'Allemagne. Et donc, le fait d'attaquer comme ça, avec 10 à 12% de coupes du budget du Land de Berlin, puisque ce n'est pas seulement une ville, c'est aussi un Land, donc là, ça va être terrible parce que c'est ce qui fait l'attractivité du territoire.
C'est
l'aspect touristique, mais c'est aussi pour attirer, par exemple, des gens pour venir habiter à Berlin et pour travailler comme, je sais pas, ingénieur, chercheur ou autre chose, ou dans des entreprises, pour les attirer. Eh bien, effectivement,
oui,
c'est certainement pas le climat qui va les attirer à Berlin. Donc, ça va être la culture, théâtre, bien sûr, les grandes structures théâtrales, la Schaubühne, la Volksbühne, l'opéra, le Staatsoper, le Philharmoniker, etc.
Oui, donc, mais auprès des jeunes populations, c'est... Pardon.
Et les clubs, mais les clubs à Berlin étaient aussi subventionnés. Donc, c'est un peu le modèle inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce qui est libéral en France, comme les clubs, en fait, là-bas, c'est subventionné.
Il y en a. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment la subvention publique, si on doit avoir une réflexion sur la subvention et des conséquences, que ce soit même le cas en Suisse, on a laissé en France, au secteur privé, tout un tas de pratiques culturelles qui sont les pratiques culturelles plébiscitées par les jeunes et la majorité de la population, en fait.
Ouais. Voilà. On en a, et d'ailleurs, le temps tourne, mais justement, à évoquant le privé, je voudrais qu'on parle de tous ces milliardaires qui, aujourd'hui, détiennent des pans entiers de la culture. On peut citer M. Pinault, qui a des collections d'art très importantes, Bernard Arnault, qui possède la Fondation Louis Vuitton. Noé Soulier, comment vous observez ça en tant que directeur du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, dans l'ouest de la France? Est-ce que finalement la culture de demain sera aux mains de ces hommes-là demain?
Il y a ce risque-là. Hein. Je pense qu'effectivement, si on regarde les moyens dont disposent ces fondations privées quand elles veulent faire une exposition aujourd'hui comparée à des musées publics comme le Centre Pompidou, c'est pas, ou les moyens d'acquisition, en fait, tout simplement, ils ne peuvent pas construire les mêmes collections. Par contre, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de vertueux dans le fait qu'il y ait différents types de financement, des financements privés, des financements publics, et qu'il n'y ait pas un seul type de financement. Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse dire, on ne peut pas simplement dire, y a une culture subventionnée qui serait une culture éloignée des populations, constituée uniquement de personnes âgées, etc. C'est pas vrai, en fait. Je pense que ça reflète pas la réalité des publics aujourd'hui. Je pense que néanmoins, c'est un travail qui est toujours à refaire et qui est difficile, parce que pourquoi, pour moi, disons qu'il y a des œuvres qui sont marquantes, que ce soit en littérature, en danse, en théâtre, en musique, etc., qui demandent un certain travail, qui demandent une éducation. Et en fait, si on vient d'une famille qui a ça, elle va vous le donner, en fait. Mais si vous venez pas d'une famille qui a ça, ça demande un effort. Et c'est sûr que si vous devez choisir entre ça et, un contenu divertissant qui procure un plaisir immédiat, c'est là où, pour moi, l'État, il a un rôle à jouer avec la subvention.
Ouais.
C'est qu'il permet de donner des clés, en fait, des clés de lecture, et de partager des expériences esthétiques que des gens ne pourraient absolument pas avoir sans ce soutien-là. Donc, et ce que je veux dire, c'est que bien sûr que c'est un travail laborieux, patient, qu'on doit refaire tout le temps, mais dans les pays où il n'y a pas ce travail-là, et c'est la majeure partie des pays, ça c'est vrai, la France est une exception. Si vous prenez l'Italie qui a complètement détruit le soutien public à la culture, c'est très triste. Parce que vous avez des villes moyennes, comme Angers, où il y a un théâtre, il y a 12 dates par an, il y a une date par mois. Il n'y a pas de proposition culturelle ambitieuse dans ces villes-là. C'était des villes qui avaient des opéras extraordinaires et tout ça. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut comme futur pour la France? Pour moi, c'est ça aussi la question. Et qu'est-ce que sera l'économie française si elle n'est pas adossée à un rêve aussi et à une image? Je veux dire, tout le secteur du luxe en France aujourd'hui, il vit parce qu'il y a un rêve derrière, quand même. C'est-à-dire que pour moi, le secteur artistique, il ne fait pas vivre que le secteur artistique. C'est un élément symbolique dans la construction de valeurs dont bénéficie énormément d'autres pentes de l'économie française. Donc, pour moi, les externalités positives, si on veut parler en termes économiques, de l'art, elles vont bien au-delà des gens qui vont directement dans la salle de spectacle.
Et on va terminer par ce plaidoyer. Et pour élargir et rebondir, quand vous avez évoqué l'idéologie, Aurélie Filippetti, est-ce que ce n'est pas un enjeu aussi de cette bataille pour la défense des budgets culturels? Je vais citer un extrait d'une tribune qui a été écrite dans le Huffington Post, signé notamment par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je cite: l'affaiblissement du secteur culturel public ouvre un boulevard au secteur privé qui peut imposer ses vues via le mécénat, mais aussi à l'extrême droite, à l'image de Vincent Bolloré. Merci beaucoup à vous trois pour vos réponses dans ce débat du jour. Et donc oui, les exceptions culturelles sont menacées, si je dois résumer en un mot vos propos. Merci beaucoup Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, directrice des affaires culturelles à la ville de Paris. Noé Soulier, Soulier, chorégraphe et directeur du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Je précise que votre dernière création, Close Up, sera présentée à Paris au Théâtre de la Ville du 11 au 13 mars, qui a été présentée au Festival d'Avignon l'année dernière. Et puis Fabrice Raffin, maître de conférence en sociologie à l'Université de Picardie, Jules Verne. Merci beaucoup à vous trois, Florence Ponce et Arnold Assoa à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation. Et puis restez à l'écoute, hein, dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir sur RFI.